BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse pour cueillir le futur avant qu'il ne devienne trop mûr avant les autres. Bienvenue à tous, jusqu'à 18h on vous accompagne, il est là en fil rouge, Antoine Larry-Gaudry. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour, vieux.
C'est les vieilles actions qui fonctionnent le mieux en bourse aujourd'hui. Regardez, le CAC 40 est sur le fil du rasoir, moins 0,05%, 8442 points. Et c'est les Legrand, les Schneider Electric, les Thales, les Airbus, c'est la vieille économie qui font fonctionner le CAC 40 en ce moment. Regardez du côté du Nasdaq, on ne fait plus grand-chose, moins 0,03%. Et la tendance s'inverse, on est revenu sur les vieilles valeurs industrielles du côté du Dow Jones qui gagne 0,39%. Bref, c'est la vieillerie qui a la cote, un retournement sectoriel. À noter quand même le pétrole, alors on a bien corrigé, on était sous les $80 ce matin pour le Brent de mer du Nord, là on est revenu légèrement au-dessus, $80.13 pour le Brent.
Oui. En revanche, il y a une nouveauté aujourd'hui. Il y a du neuf au milieu de cet univers, cette séance qui fait remonter les vieilles et les vieux. Quoi. Kevin Warsh, lui, c'est un homme nouveau. Kevin Warsh, donc à la tête de la Fed, prononcera tout à l'heure son premier discours à l'issue de la décision de politique monétaire. Conférence de presse à partir de 20h30 et il passera vraiment un grand oral très compliqué sans doute, avec d'un côté une inflation qui accélère, de l'autre un pétrole qui replonge. Comment justifier la prochaine décision de politique monétaire de la Fed? On va essayer d'anticiper cette réunion et la décision avec nos experts. Du côté des entreprises, c'est le premier très gros profit warning lié en partie à la guerre en Iran et au ralentissement en Chine. Là, depuis le début d'année, vous savez qu'au premier trimestre, on avait été tous surpris par la qualité des publications les entreprises. Et bien là, BMW en revanche alerte très fortement en raison de la guerre en Iran et surtout du ralentissement chinois. Le titre BMW perd 7% et on va se demander maintenant à qui le tour. Dans un mois, en effet, les publications du deuxième trimestre vont arriver. Un deuxième trimestre beaucoup plus impacté et concerné par cette guerre en Iran. Est-ce qu'il faut s'attendre à beaucoup de douches froides type BMW aujourd'hui? On va poser cette question. Et puis le dollar qui remonte, jusqu'où le rebond? Les investisseurs se ruent sur les paris haussiers sur le dollar alors que le pari sur l'exceptionnalisme américain fait son retour. Article du Financial Times qui fait vraiment mouche aujourd'hui, le retour du pari sur l'exceptionnalisme américain. On va challenger ce scénario. BFM Bourse au cœur de toutes ces batailles et BFM Business bien sûr toujours connecté au sommet du G7 à Évian ce G7 touche à sa fin. Nouveau coup de pression de Donald Trump sur l'Iran alors que le protocole d'accord doit être signé vendredi près de Lucerne en Suisse. Le président américain menace de recommencer à, je cite, balancer des bombes si l'Iran ne se comporte pas bien. Donald Trump qui parle d'un accord magnifique à venir et qui s'est présenté devant ses homologues comme « the boss ». Voilà, il est attendu ce soir à Versailles, Donald Trump, pour un dîner destiné officiellement à célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine. Le patron de Total Energy auditionné en commission à l'Assemblée nationale, Patrick Pouyanné, a notamment révélé que le plafonnement des prix des carburants lui avait coûté 200 millions d'euros depuis le début de la guerre en Iran. Selon lui, le plafond est inférieur au prix de revient. Et d'ajouter, si le Parlement s'orientait vers une taxation supplémentaire, alors nous en tirerions les leçons. On ne peut pas vouloir nous prendre deux fois le même argent. Le gratin de la tech mondiale est à Paris, lui, depuis ce matin, au salon Vivatech. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est présent parmi les invités d'honneur. Il a partagé ce matin son rêve de rendre la Terre à son état d'avant l'industrie. Jeff Bezos a expliqué que, je cite, « si le voyage spatial devient assez fiable et bon marché, et si nous pouvons obtenir nos matières premières d'astéroïdes et d'objets proches de la Terre et la Lune, alors cette planète jardin sur laquelle nous vivons pourra être rendue à son état d'avant la révolution industrielle. » Fin de citation. À suivre ce soir sur BFM Business, donc, cette nouvelle édition de Vivatech, Christophe Fouquet, le patron monde d'ASML, sera l'invité de BFM Business à 20h, l'invité de Tech & Co. On est à vos côtés, d'ici là, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous, c'est BFM Bourse en direct.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Avec Mathieu Détouche, toujours avec nous, Arkea Asset Management. Bienvenue donc Mathieu. Dans un instant, on va regarder les gagnants et les perdants de cette séance. Mais vous le disiez, Antoine, c'est une séance un peu tristoune en attendant la fête ce soir. Le CAC 40 ne fait pas grand-chose cet après-midi.
Non, effectivement. Je reste quand même un peu pantois face aux déclarations de Jeff Bezos. Enfin, on pourrait juste arrêter tout simplement de polluer, enfin polluer peut-être un petit peu moins, ou plutôt que d'aller embarquer la pollution et de l'amener ailleurs. Bon, bref. Le CAC 40, moins 0,12, 8437 points. Bonsoir. Et c'est l'industrie qui signe les plus fortes hausses. Legrand, plus 3,97, 144,20 €. Schneider Electric, plus 2, 282,60 €. Alors, bonne vieille valeur, oui. Maintenant, elles sont quand même plus ou moins liées aux nouvelles technologies, à l'électrification de la société, etc. Donc, bon, vieille, mais pas tant que ça. Crédit Agricole, plus 1,6, 17,52 €. Et BNP Paribas, plus 1,22 à 101,18 €. Aujourd'hui, c'est vraiment le secteur bancaire qui semble sectoriellement vraiment faire tenir le coup au CAC 40. Société Générale qui a signé quelques très très belles séances là entre ce début de semaine et la semaine dernière, gagne encore 1% à 77,94 €. Oula, l'automobile. Stellantis, moins 2,68 à 5,80. Renault, moins 1,65 à 27,36 €. Vous avez parlé de BMW. Et effectivement, il y a ce profit warning qui est absolument retentissant. Le marché a l'air de pas du tout redécoller du côté des États-Unis et du côté de la Chine. Il y a eu aussi un article très inquiétant du côté de la presse économique anglo-saxonne ce matin concernant Volkswagen. Il paraît que du côté du directoire de Volkswagen, il y a une majorité d'intervenants qui sont en train de dire que le modèle industriel actuel de Volkswagen est menacé en tant que tel. Voilà. Donc, très forte pression autour du secteur auto et ça continue de se sentir. Mais de toute manière, depuis le début de la semaine, le secteur auto est quand même très mal orienté entre Stellantis, Renault et puis ces mauvaises nouvelles en série du côté de l'automobile.
Oui, BMW, donc gros profit warning. Alors, BMW le justifie, Mathieu, en disant oui, il y a le ralentissement en Chine et la guerre au Moyen-Orient. La question, c'est est-ce que le problème n'est pas beaucoup plus fondamental sur le business de Volkswagen ?
Alors, effectivement, je veux dire, il y a l'activité chinoise, le marché fait moins 19, ils font moins 15, donc effectivement ça pèse. Le Moyen-Orient, ça va peser aussi, effectivement le prix de l'essence a augmenté, la confiance des consommateurs est pas au beau fixe, donc tout ça pèse sur la décision d'achat, évidemment. Mais après, structurellement, il y a rien de nouveau. Je veux dire, la concurrence chinoise, elle est toujours bien présente pour des acteurs premium comme BM, comme Mercedes, etc., qui ont une présence, il y a moitié du chiffre d'affaires qui est réalisé en Chine. Les acteurs chinois aujourd'hui qui faisaient des véhicules un petit peu moins qualitatifs, aujourd'hui ils ont rattrapé leur retard. Donc ils arrivent à offrir des produits d'une qualité semblable ou presque à des prix inférieurs. Donc il y a cette menace chinoise qui reste là. Et puis il y a la transition électrique qui coûte cher et qu'il faut financer par un moyen ou par un autre. Donc oui, l'industrie européenne, elle est en difficulté.
Regardez par exemple les marges bénéficiaires de Volkswagen. Elles étaient en 2023 de 10%. Elles pourraient descendre cette année, nous dit Volkswagen, de 10% en 2023 à seulement 1%.
C'est un petit peu le... Enfin là, ils visaient entre 4 et 6 de marge d'EBIT. Le consensus était à 5 chez BMW. Ils ont révisé entre 1 et 3. Donc c'est un profit warning qui est énorme. Pareil sur le free cash flow, sur les volumes, etc. Enfin vraiment, c'est un profit warning à tous les étages. Ouais. Donc ils vont prendre certaines mesures. Et ils vont mettre en place un plan d'économie de coûts qui va compter aussi. D'ailleurs, qui compte aussi dans le profit warning. Hein, c'est un tiers du profit warning. Parce que les économies de coûts, il faut les financer. Ça compte au début. Donc ils vont prendre à bras le corps ces problématiques. Mais ça va rester compliqué.
Volkswagen perd à Francfort un peu plus de 7%. Vous le disiez, Antoine, tout le secteur auto est embarqué. Et parmi les raisons qu'invoque Volkswagen à ce profit warning, la guerre en Iran. C'est le premier groupe, depuis le début de cette guerre en Europe, à invoquer aussi directement les effets de la guerre en Iran pour justifier un profit warning. Cette guerre, elle a débuté en mars, donc à la fin du premier trimestre. Elle n'a pas eu d'impact réel sur les résultats des entreprises au premier trimestre, mais là, on va arriver bientôt sur les résultats du deuxième trimestre. Est-ce qu'il faut craindre, pour le coup, plus de profit warning ?
Sur le secteur auto ou en général ?
Non, en général.
En général, alors oui, je pense qu'il y a certains acteurs qui vont être pénalisés. Je pense que tout ce qui est lié un petit peu à la consommation, qui est très lié, qui a besoin de chaînes logistiques qui fonctionnent bien, des choses comme ça, qui a besoin d'une certaine confiance dans l'avenir et dans l'économie. Donc je pense par exemple les valeurs de consommation classiques, le luxe aussi, qui a connu un rebond récemment assez technique, parce qu'on voit qu'on est quand même sur une détente au niveau géopolitique. Donc il y a pas mal d'acteurs qui étaient short de ce secteur-là, qui est revenu dessus. Mais aujourd'hui, c'est un secteur qui se paye, quand je regarde LVMH, c'est 20-22 fois les bénéfices, pour des croissances de, on va dire, 5-6%. C'est des boîtes qui n'ont pas le droit à l'erreur. Donc sur les sociétés de luxe un peu aspirationnelles, je mets peut-être de côté des Richemont ou des Hermès, là, peut y avoir des risques. Après, il faut faire attention aussi à certaines industries très lourdes qui sont dépendantes du coût des intrants, donc de toutes les matières premières qui ont beaucoup monté. Certains acteurs de la chimie aussi sur lesquels il faudra être prudent. Je regardais ce matin des boîtes comme Accor, que j'aime bien en l'occurrence Accor, mais elle est revenue un petit peu plus haut qu'avant la crise, alors qu'elle est exposée à 10%, qu'on voit bien que là, il reste encore des interrogations sur l'issue du conflit. Donc des airlines comme Wizz Air qui a repris un petit peu de performance, alors qu'elle est très exposée au Moyen-Orient, qu'elle n'était pas du tout couverte sur la hausse du prix du jet fuel. Donc je ferai attention sur ces valeurs-là.
Priorité au direct, Mathieu, parce qu'il se passe toujours des choses sur les marchés. Et alors là, incroyable, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. SpaceX recule. Oui, quatrième séance de cotation pour SpaceX. C'est une première historique depuis son apparition en bourse. SpaceX, pour la première fois, donc, recule cet après-midi de 2%.
Remboursé.
Ah ouais. Après avoir pris ses 50% en 3 jours, moins 2%, ça fait tout
moins
bizarre.
4. Moins 4.
Ah, moins 2,5.
Rouge. Ouais. Nul.
C'est la fin d'une histoire. On plaisante. Hein,
mais je suis pas plus étonné que ça. Je veux dire, tout a été effectivement orchestré pour que ça monte. Ils ont émis que 5%, enfin, c'est un tout petit flottant. Il y avait un appétit énorme. Aujourd'hui, c'est à peine un investissement. C'est presque un achat plaisir. On voit bien que, après l'IPO, donc le taux de service, il a été très faible, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres. Le taux de service a été faible. Donc, les gens qui n'ont pas eu à l'IPO, il y a beaucoup de comptes qui n'ont pas été servis lors de l'IPO, qui ont acheté les jours suivants. Et c'est pour ça qu'on a observé des hausses sur les 3-4 derniers jours. Mais après, quand on se raccroche aux fondamentaux, c'est une société qui se paye 100 fois le chiffre d'affaires. Alors après, Tesla, ça se paye 200 fois les bénéfices et ça fait longtemps que ça dure. Oui. Alors que le chiffre d'affaires stagne, que les résultats baissent. Donc Musk, il est capable de tout, on va dire. Mais on a du mal à comprendre les fondamentaux. Et peut-être le marché va s'y raccrocher à un moment ou à un autre.
Ah, vous croyez vraiment qu'il y aura un retour aux fondamentaux en termes de valorisation, ouais.
Ouais,
malgré les ETF qui répliquent sans se soucier de la valorisation, malgré
ces effets. Les ETF, je crois qu'il y a le MSCI qui a déjà intégré ou c'est imminent. Il va y avoir le Nasdaq, le S&P, ça va prendre plus de temps parce qu'ils ont des critères. Je crois qu'il faut que ça fasse 10% de flottant, 12 mois de cotation, des bénéfices, ce qui n'est pas encore le cas. Alors Starlink, c'est bénéficiaire, c'est la vache à lait un petit peu de la valeur. Il faut financer justement le développement de la fusée Starship. Il faut financer xAI aussi, qui est en perte et qu'ils ont intégré dans SpaceX. Voilà, il y a un moment donné, on ne paye pas 100 fois le chiffre d'affaires à une société qui, pour l'instant, n'est pas bénéficiaire. Donc, ça viendra, sans aucun doute. Mais je vois circuler des chiffres qui, moi, me paraissent un petit peu gros.
Oui. Lundi, c'est Boulébert 13 qu'on suit souvent sur les réseaux qui a repéré que lundi, 73% des actions achetées par les particuliers américains, 73%, c'était SpaceX.
Le marché est-il concentré?
Il est fort et c'est peut-être bien la stat de la semaine, franchement.
C'est énorme cette stat. 73% des valeurs qu'achetaient les particuliers américains lundi, 73%, c'était en fait une seule valeur, c'était SpaceX.
Le marché ne regarde pas les risques. Hein. Les risques de régulation, les risques d'un accident technologique ou industriel. Il peut y avoir énormément de risques aussi sur la valeur.
Antoine.
Les deux intervenants là, que j'avais ce matin dans Tout pour Investir et qui étaient vraiment disaires et qui ont observé, certains même y étant exposés, disaient une fois qu'on y est, il faut assumer d'être à 100%, mais 100%, voire même 110%, dans le domaine de la pure spéculation. Ça ne peut plus rien dire du côté des modélisations qu'on avait avant sur valoriser le risque, valoriser les performances futures, etc. Ça ne veut plus rien dire.
Mais est-ce qu'on disait pas la même chose
de la spéculation?
Ouais, mais est-ce qu'on disait pas la même chose il y a 4 ans sur Nvidia? Et puis aujourd'hui, finalement, la valorisation s'était un peu alignée sur les fondamentaux ou les fondamentaux sur la valo, on ne sait plus. Mais
Nvidia a toujours.
Il y a 4 ans, on se demandait beaucoup de choses.
Oui, mais Nvidia a toujours fabriqué des vraies choses. Pour l'instant, SpaceX fabrique. 20% de fusées, de satellites, de d'IA, etc. Et fabrique tout le reste qui n'existe pas encore.
Les data centers compliqué. Dans l'espace, on les attend, etc.
Voilà. Pas beaucoup de promesses aujourd'hui.
Après, il dit que ce sera facile à faire. Le doute fait avancer.
Il arrive souvent à faire ce qu'il fait, mais ça prend plus de temps que prévu.
Cela dit, il disait faire réatterrir des fusées, ce sera facile à faire. Il l'a fait.
Oui, et il le fait souvent même maintenant.
C'est toujours aussi fascinant.
Vous restez avec nous au fil rouge, Mathieu, si ça vous dit. On vous retrouvera à la clôture des marchés de tout à l'heure à 17h35. Vous avez le temps d'aller boire un verre d'eau d'ici là, bien sûr, ou deux. Le CAC 40 est en toute petite baisse de 0,3%. Emeric Lang nous rejoint, Erasmus AM. Bonjour Emeric. Pour nous apporter une idée en plus de valeur pour ceux qui souhaiteraient compléter leur portefeuille. Mais Emeric, j'ai une très très mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'avez que 2 minutes 30. Est-ce que vous acceptez malgré tout de relever ce défi?
J'accepte le défi.
Alors vous allez nous faire découvrir une valeur, une conviction forte chez vous, auprès de vos équipes, un titre dans lequel vous croyez, titre Thermador. Qui est, que fait Thermador?
Alors Thermador, c'est le numéro 1 assez discret de la distribution de matériel de chauffage, plomberie et pompe en France. Il y a deux forces principales dans le groupe, c'est son organisation et sa réactivité. L'organisation d'abord, il faut vraiment voir la société comme une holding qui contrôle 19 filiales, chacune avec sa marque, ses clients, son marché. Et c'est la maison mère, qui arbitre ensuite le capital. Et la réactivité ensuite, parce que Thermador est capable de livrer 45 000 références en moins de 48 heures partout en France. Et clairement, ça fonctionne. Marge opérationnelle opérationnel autour de 12%, même en baptique, pour une société de distribution, c'est remarquable. Mais très clairement, la société vient de vivre 3 années très difficiles. Le chiffre d'affaires est en recul, notamment en raison de la construction neuve qui a été à l'arrêt en France, et également de la rénovation avec les atermoiements du gouvernement sur MaPrimeRénov. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir quelques signes de reprise. La construction neuve semble avoir touché un point bas et rebondit légèrement. La rénovation énergétique s'améliore également, notamment grâce à la réaccélération des pompes à chaleur en France. Et sur la partie industrielle, on voit des gros projets arriver, comme l'investissement de SoftBank auquel Thermador va participer via ses différentes filiales.
Allez-y, Aymeric, je vous en prie.
L'autre point important, c'est la valorisation, bien évidemment. En BATIC, on paye 8 fois le résultat opérationnel, soit une décote de 30%.
Bon, c'est pas mal. Est-ce que vous misez aussi sur la croissance externe pour aller justifier ce potentiel que vous voyez venir pour Thermador en bourse?
C'est la beauté de ce modèle, c'est que même avec le ralentissement, la société a généré beaucoup de trésorerie. Ça lui donne environ 200 millions d'euros à investir en croissance externe pour une capitalisation de 600 millions d'euros. Donc c'est pas négligeable. Ils viennent de recruter quelqu'un dédié au M&A. Donc pour résumer, on est vraiment sur une société de grande qualité qui vient de connaître 3 ans compliqués, mais qui commence à voir la lumière au bout du tunnel, et avec des bonnes nouvelles du côté M&A qui pourraient arriver au cours des prochains trimestres. Donc nous, on est d'heureux actionnaires de cette société-là, avec bien évidemment des perspectives long terme, et on a un objectif de cours de 90 euros.
Sur ce titre, Thermador, donc votre argumentaire est à retrouver en replay sur l'application BFM Business. Valeur ajoutée chaque jour. Merci beaucoup, Aymeric Lang, Erasmus AM. Le CAC est en petite baisse de 0,2%. En attendant la Fed ce soir, on va en parler bien sûr dans un instant. Le S&P, lui, progresse gentiment, plus 0,2.
BFM Bourse, l'écho du monde.
D'abord quand même, Léa Dauphas nous rejoint pour TAC Economics, parce que le pétrole aussi fait l'actualité. L'AIE, l'Agence Internationale de l'Énergie, abaisse fortement sa prévision de demande mondiale en pétrole. Bonjour Léa, on est ravis de vous retrouver. L'AIE la baisse pas qu'à moitié sa prévision de demande mondiale en pétrole pour cette année, elle la baisse d'1,1 million de barils par jour. Est-ce que c'est le signe d'une moindre croissance à venir, ou vous interprétez ce chiffre autrement?
En fait, il y a deux phénomènes qui sont à l'œuvre. Le facteur dominant, c'est probablement le ralentissement de la demande mondiale. Dans son rapport, elle met en avant que la destruction de demande, elle s'est entendue bien au-delà des régions qui étaient directement affectées par le conflit, avec la Chine qui joue un rôle central, et la demande pétrolière chinoise qui a fortement ralenti ces derniers mois, ce qui reflète à la fois l'activité économique chinoise moins dynamique, mais aussi des changements structurels dans le modèle de croissance. Et donc, l'autre phénomène, c'est effectivement tout ce qui va être électrification, notamment du parc automobile chinois, qui devient en fait aujourd'hui suffisamment important pour apparaître dans les statistiques mondiales de consommation de pétrole. Mais en réalité, sur ces histoires de pétrole et de prix, je pense que le véritable message du rapport, il est ailleurs. En fait, il y a quelques semaines, on craignait un risque sur la faiblesse des stocks à l'été avec le scénario de pénurie, le risque que le pétrole aille chercher les $150. Aujourd'hui, l'AIE commence à évoquer un surplus potentiel d'offres avec un retour progressif de la production du Golfe et une demande qui reste modérée. Et donc, ça change complètement la lecture macro-marché qu'on a eue il y a quelques semaines. Depuis le printemps, c'était la prime de stagflation. Mais si le pétrole ajuste plus vite qu'attendu, en tout cas ce que les futurs suggèrent aujourd'hui, et si, et je mets beaucoup de si, l'accord avec l'Iran tient, en fait, cette prime de stagflation, elle pourrait se dégonfler assez rapidement, et le débat pourrait en fait passer du monde dominé par les risques inflationnistes à un monde où on recommencerait à s'interroger sur la faiblesse de la croissance et sur la poursuite de la désinflation en 2027.
Léa, l'événement du jour, c'est évidemment la fin de la réunion politique monétaire de la Fed. Ce soir, 20h, il y aura la première conférence de presse très attendue du nouveau patron, Kevin Warsh. Question un petit peu bateau, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qu'il serait bon qu'il dise au marché?
Alors, qu'est-ce qu'il faut en attendre? C'est vraiment la question de la conférence de presse qui va être prise. La décision, elle fait aucun doute, une Fed qui reste prudente, relativement au quiche dans le ton, sans pour autant préparer à ce stade de nouveaux resserrements monétaires. Mais c'est vraiment cette question de communication qui est clé. Est-ce qu'il va modifier la manière dont la Fed communique avec les marchés? Warsh a toujours été critique vis-à-vis de la forward guidance trop précise. Et donc l'idée, c'est comment il communique, qu'est-ce qui va se passer sur les dot plots, qu'est-ce qui va même se passer dans la manière dont il tient la conférence de presse. Est-ce qu'on va avoir des trajectoires détaillées tôt, ou est-ce qu'il va redonner davantage de flexibilité à sa communication, ce qu'il voudrait? Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième, c'est surtout le diagnostic économique de la Fed. Les chiffres macro sont encore extrêmement bons côté activité. Par contre, l'inflation, on a des mesures, notamment celles suivies par Walsh, qui montrent des tensions. Donc, comment la Fed arbitre entre les deux? Et le dernier point, on en parle un peu moins maintenant, mais je pense qu'il va être clé, c'est qu'en fait, d'un côté, On a effectivement la succession de choc d'offres qu'on connaît et qui pèse sur la croissance et l'inflation, mais son cœur de thème à Warsh, qui est de dire bah, que fait l'IA, comment elle pourrait relever la productivité, soutenir la croissance, réduire les pressions inflationnistes et voir en fait quel est le positionnement du board sur ces questions, voire même si elles sont abordées. Donc c'est plutôt de la question de communication et de positionnement à moyen terme que, pour une fois, c'est pas tant la situation des taux qu'on va suivre que celle-ci.
Effectivement, Kevin Warsh, donc on découvrira sa méthode, sa grammaire en tant que président de la Réserve fédérale américaine. Kevin, qui signifie en gaélique, en celte, le charmant enfant. Voilà, bah, c'est un enfant, un nouvel enfant, un divine enfant. On verra pour les marchés financiers leur réaction et on en reparlera largement demain dans l'analyse des annonces de la Réserve fédérale américaine. Pour une économie américaine qui va toujours pas mal quand même, parce que c'est vrai que l'inflation a beaucoup accéléré, c'est un point noir pour les consommateurs, ça les empêche pas de consommer de plus en plus. Les ventes au détail au mois de mai, on a découvert le chiffre tout à l'heure, ressortent supérieures aux attentes, Léa.
Ouais, effectivement, en fait, depuis plusieurs mois, c'est le cas. On s'interroge sur la capacité des ménages à soutenir la croissance dans un environnement avec les taux plus élevés, l'inflation qui reste supérieure à la Fed et une épargne qui s'est progressivement érodée. Et encore une fois, les données de mai, elles montrent que la résilience côté consommateur est bien présente. Après, je suis pas convaincue que le chiffre règle la question du second semestre. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, une partie du soutien observé au premier semestre est liée aux effets du One Big Beautiful Bill, hein, les remboursements fiscaux. On a aussi les achats anticipés. Quelques facteurs temporaires. Donc, c'est plutôt la question, c'est est-ce que la bonne dynamique qu'on a connue sur l'activité américaine et la conso au premier semestre peut se poursuivre sur le deuxième. Lorsqu'on regarde les détails du rapport, hein, il y a certains segments plus discrétionnaires qui sont beaucoup plus fragiles sur la restauration, certains postes de consommation courante. Donc, le vrai sujet, c'est est-ce que ce qu'on a connu en S1 tient encore en S2 une fois que ces effets-là sont passés.
Léa Dauphaz, TAC Economics, merci beaucoup Léa de nous avoir accompagné cet après-midi. Le CAC 40 recule de 0,1%. Wall Street en petite hausse. Le pétrole, on en parlait du pétrole, il est à peu près stable par rapport à hier. Le grand plongeon a eu lieu depuis dimanche soir jusqu'à hier. Et puis depuis, on reste proche des 80 $, 79,50 $ pour le baril de Brent en ce moment.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
D'ailleurs, la baisse des cours du pétrole fait remonter les compagnies aériennes. Elles remontent d'ailleurs depuis maintenant déjà quelques semaines. Et justement, à quelques semaines des vacances d'été, on va prendre le large dans BFM Bourse. On va vous apporter des idées pour investir en bourse dans la thématique des voyages. Jérémy Blackwell nous rejoint, le président de Blackwell Family Office, fondateur de la newsletter bourse Limonade. Bonjour Jérémy.
Bonjour Guillaume.
Bon, investir dans le voyage à travers la bourse, bien sûr, parce que les vacances d'été approchent, mais il y a aussi des vraies opportunités, c'est ça? C'est un bon timing boursier, là?
Oui, bah, c'est vrai que les valeurs voyage ont souffert en bourse, fort logiquement, avec le conflit en Iran, qui a l'air de se diriger peut-être vers une sortie, on verra. Mais en tout cas, même s'il y a encore des incertitudes à court terme, c'est un secteur qui est très porteur à long terme, avec une forte croissance.
Alors, l'idée, c'est de l'illustrer à travers des valeurs que vous aimez bien. Vous allez nous en proposer 3. Vous êtes prêt à relever le défi?
Je suis prêt, Guillaume.
Et parmi ces 3 valeurs que vous nous proposez aujourd'hui, il va falloir argumenter parce qu'on va vous challenger, je vous préviens. Il y a Voyageurs du Monde. Alors que moins de Français veulent voyager à l'étranger cette année, c'est vrai, il y a le contexte géopolitique. Mais vous, vous êtes positif sur Voyageurs du Monde. Qu'est-ce qui vous plaît exactement dans cette valeur?
Alors, Voyageurs du Monde, effectivement, c'est une small cap, mid cap, donc qui est le numéro 1 français donc, du voyage organisé haut de gamme et sur mesure. Donc, ils ont une partie vraiment voyage sur mesure qui fait 55% du chiffre d'affaires, et une partie voyage d'aventure, donc ça va être partir en Antarctique, etc., qui fait 45% du chiffre d'affaires. C'est des segments qui sont en forte croissance. C'est une valeur qui se paye pas très cher, hein, elle paye 13 fois les bénéfices de cette année, avec 5% de dividendes également. Donc voilà, une valeur de qualité qui déçoit rarement et qui en ce moment est assez mal valorisée par le marché.
Oui, et c'est ça, parce qu'il y a eu débat pendant quelques mois, effectivement, sur ce titre. Très peu liquide, ça vous empêche pas de le conseiller directement? Le fait que ce soit très peu liquide n'est pas un obstacle pour vous?
Alors non, il y a beaucoup de belles sociétés peu valorisées qui sont assez peu liquides, donc il faut être vigilant, acheter effectivement des montants raisonnables avec des ordres à cours limités et progressivement, mais c'est une valeur justement qui peut assez rapidement remonter si la tendance s'inverse un petit peu, et notamment si la guerre se termine vraiment, en tout cas si on va dans le bon chemin.
Mais d'ailleurs, Guillaume, souvenez-vous ce que dit Eric Lewin, puis différents spécialistes du secteur du luxe. Maintenant, les clients du secteur du luxe, bon, le sac à main, la Porsche, ils veulent une expérience.
Oui.
Ils veulent de l'expérientiel. C'est devenu un nouveau mot à la mode. Alors effectivement, Voyageurs du Monde, on est en plein dedans.
D'ailleurs, les géants du luxe se lancent de plus en plus dans l'hôtellerie expérientielle aussi.
Voilà, avec un truc spécial, un événement à vivre. À part ça, il y a aussi des valeurs un petit peu plus classiques, évidemment Accor. Qu'est-ce qui vous attire dans cette valeur ?
Bah, Accor, effectivement, donc valeur française qui est leader européen donc de l'hôtellerie. Accor, donc ils ont à peu près 6000 hôtels, 900 000 chambres, vraiment du très très luxe comme Fairmont Travels ou plutôt assez économique comme Ibis. Donc ils sont bien diversifiés à la fois en termes de type de segment et géographiquement. C'est une valeur qui a beaucoup baissé effectivement avec le conflit en Iran, qui est bien géré et qui s'est pas mal transformé sous l'égide de Monsieur Bazin, qui a notamment externalisé tout l'immobilier. Donc maintenant, Accor, c'est vraiment un modèle light, un petit peu comme Marriott ou Hilton aux États-Unis, qui sont beaucoup mieux valorisés par le marché, où ils ne possèdent plus les murs, mais ils exploitent les hôtels, ils les opèrent, ils les franchisent. Donc un modèle qui normalement plaît davantage à la bourse.
Oui, Goldman Sachs sur Accor est neutre avec un objectif de cours autour de 47 euros. Vous êtes plus positif que Goldman Sachs. Vous osez être plus optimiste que Goldman Sachs sur Accor.
Alors j'ose être un peu plus optimiste. Alors ils ont quand même un objectif qui est supérieur au cours actuel, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs catalyseurs sur Accor. Notamment, là, ils ont cédé un peu plus de 30% donc de leur filiale Essendi, c'est la partie justement immobilière externalisée, donc les murs d'hôtel à Blackstone et à Colony. Avec cet argent, ils vont pouvoir faire des rachats d'actions jusqu'à 10% du capital d'Accor, qui vaut un peu plus de 1 milliard d'euros. Donc c'est assez conséquent. Et ils ont un actif un peu caché qui s'appelle Innismoor, qui comprend notamment en France par exemple tout ce qui est The Hoxton, Mama Shelter, voilà, la branche un peu lifestyle justement, un peu expérientielle comme on en parlait, et qui serait valorisée par la Deutsche Bank autour de 4 milliards d'euros quand même. Donc voilà, ça représente des montants conséquents et c'est une valeur un petit peu cachée qui pourrait voir le jour, c'est pas pour tout de suite, mais peut-être dans un an ou deux pour quand ils feront un IPO.
Ouais. Oui. Donc Accor, vous en avez parlé, Voyageurs du Monde, autre valeur du voyage dans laquelle vous croyez. Alors il y en a une troisième, je vous avoue qu'elle nous surprend, mais vous allez pouvoir argumenter, ça tombe très bien. TripAdvisor, c'est un nom qu'on connaît tous, et le titre est vraiment très très mal aimé en bourse. Vous aimez là vraiment à travers TripAdvisor ce que le marché pour l'instant rejette. Vous pensez que le marché va changer d'avis ?
Je pense que le marché va changer d'avis sur TripAdvisor, effectivement. Tout le monde connaît l'activité historique de TripAdvisor, donc avis sur des restaurants, des hôtels. Une activité qui est un petit peu en déclin avec Google, avec l'IA. Ils ont fait moins 8% sur le chiffre d'affaires l'an dernier. Ça représente encore 40% du chiffre d'affaires du groupe, 750 millions. Ils ont une autre activité qui est vraiment le moteur du groupe, qui s'appelle Viator, dans tout ce qui est réservation d'événements et d'activités en ligne, qui fait déjà, devrait faire 1 milliard de dollars cette année, 50% de chiffre d'affaires et en bonne croissance. Et surtout, ils viennent de vendre The Fork, donc La Fourchette, qui était une boîte française à la base, pour 700 millions de dollars à American Express, quand on sait que ça représentait à peine 12% de leur chiffre d'affaires et que donc c'est quasiment la moitié de la valeur en bourse de la société.
Oui, et ça vous rend pas pessimiste, c'est-à-dire que vous estimez que TripAdvisor va trouver dans ses tripes au fond lui des moyens de concurrencer efficacement non seulement Google, Booking bien sûr, mais aussi l'intelligence artificielle qui fera le boulot à sa place peut-être demain.
Alors TripAdvisor c'est en transformation, mais ils ont des accords importants avec justement Google, Perplexity, OpenAI, etc. Donc ils sont plutôt pas si mal placés dans l'IA et surtout ils ont des données, de la data, ils ont plus d'un milliard d'avis d'utilisateurs, ce qui a une vraie valeur aujourd'hui avec l'IA.
Un milliard
d'avis d'utilisateurs. Ils ont des datas qui valent cher et leur filiale Viator de tout ce qui est réservation d'activités en ligne qui explose pas mal.
Antoine.
Par ailleurs, je dois dire que l'opération d'American Express qui reprend du service à valeur ajoutée, alors que les cartes de crédit ont beaucoup de mal maintenant à dégager plus de valeur qu'elles n'en dégagent. Le truc est vraiment bien fait et a vraiment un sens.
Il remonte la chaîne de valeur.
C'est exactement ça. Ouais. Très intéressant aussi.
Voilà, trois idées pour investir dans les voyages. Des arguments aussi, vous pouvez trouver en podcast et replay. Jérémy Blackwell, de Blackwell Family Office. Bah, oui, il porte votre nom, ce nouveau Family Office.
Oui, tout simplement. Donc, ouais. Je cofonde ce Family Office donc, avec Franck Mouchel, qui est un ancien dirigeant d'AXA. Et voilà, l'idée, c'est d'apporter à nos clients un maximum de transparence et de confiance avec des bons conseils et des bonnes opportunités.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Jérémy. Dans un instant, on va se retrouver et se réunir en famille. Conseil de famille à suivre alors que le CAC 40 est en petite baisse de 0,1%. Oui, mais il y a des vrais gagnants aujourd'hui, un peu toujours les mêmes. Enfin, encore une fois, Schneider Electric, hein. Tous les jours ou presque, Schneider Electric fait mieux que le marché. Aujourd'hui encore, ce titre gagne 2,3% et le grand, sur le même secteur, gagne 4,3%. On ne vous fait pas un dessin, c'est lié au data center, à l'intelligence artificielle. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est la famille BFM Bourse chaque jour après 16h30, le seul endroit au monde où vous choisissez en pleine conscience votre famille. Bienvenue à tous, Julien Marion nous rejoint, BFMBourse.com. Bonjour Julien.
Bonjour frère Guillaume, bonjour frère Antoine.
Voilà, Antoine est là aussi, on est ensemble avec ce CAC 40 qui recule de 0,1%, Wall Street en hausse. Antoine, le vrai événement c'est SpaceX hein, quand même, il se passe un truc historique là.
Mon Dieu, c'est la première fois de l'histoire. SpaceX est en baisse.
Non.
Moins 2,8%.
Oh non.
Oh bah écoute. Hein.
Fallait bien que ça arrive, mais quand même, c'est la première fois de l'histoire.
Oh, incroyable. Prise de profit incroyable.
De combien, Antoine, la baisse?
Moins 2,88.
Oh là là.
La baisse.
Et le cours, on est à?
On est à 195,99, ça va aller.
Oula, seulement $60 de plus que dans l'introduction en bourse.
Oui, 60% de plus aussi, quasiment. Oui, non, bon, on va essayer de ne pas parler tout de suite de SpaceX parce que c'est au programme de la suite de cette famille. Au-delà de SpaceX, parce qu'il faut aussi regarder au-delà de l'espace, Julien. Comment vous la sentez? Comment vous la voyez, cette séance? Comment vous la vivez?
Comme une séance d'attentisme, on ne va pas se mentir. Si vous voulez, on attend de comprendre un petit peu plus les détails du plan qui doit être signé à vendredi. Je crois que c'est près de Lucerne, hein, c'est ça?
Oui.
En Suisse, hein, si ma mort est bonne. Je n'ai pas retenu le nom exact de la petite ville de Suisse.
Alors, faut pas confondre avec les sandales, mais je crois que ça s'appelle Birkenstock.
Voilà. Oui, une lettre près.
C'est vrai, vous avez raison. C'est mon moyen mnémotechnique, mais c'est pas avec un I, c'est avec un U. Voilà.
Ben, oui, très bien.
Bah, du coup, on retient.
Oui.
Bon, c'est bien.
Très bien. Et en plus de ça, vous en avez déjà parlé pendant très raisonnablement, la première réunion de la réserve fédérale qui sera sous l'ère finalement de Kevin Warsh, et donc plus que les taux, j'imagine, ce sera sa conférence de presse qui sera intéressante à suivre.
Et on va en parler, ce sera ce soir effectivement 20h30, les marchés attentistes avant la fête de ce soir. Antoine, vous la vivez comment vous cette séance où le CAC ne fait rien et Wall Street non plus?
C'est-à-dire que Wall Street, c'est assez étonnant parce qu'on part bien en tête avec des tendances alors très très infirmées. Il y a une vraie divergence entre les valeurs industrielles et les valeurs tech. On commence par le Nasdaq qui part bien en tête, le Dow Jones, bof, peut-être même en baisse. Puis ça s'inverse une heure après. Ça fait deux fois que ça nous fait le coup. Hier, c'était la même chose à l'envers. Et au milieu de ça, le CAC 40, il n'a pas franchement de direction. Il a pris un petit peu d'avance depuis le début de la semaine par rapport à Wall Street, un chouïa. Là, pour l'instant, on est sur un repli de 0,1% à 8438. Mais effectivement, on attend la Fed. Maintenant, on attend surtout la conférence de presse de Kevin Warsh. Hein, c'est ce que nous disait Léa Dauphas tout à l'heure. Ça va être le vrai événement, la vraie première prise de parole. Et il va poser sa marque et on va y être tous attentifs, évidemment. Et
effectivement, Léa Dauphas, Tech Economics, nous en parlait dans l'Écho du Monde, a retrouvé en replay les enjeux. C'est en replay, ça y est, c'est en ligne sur l'application BFM Business. Les enjeux donc de cette réunion de la Fed et le chiffre américain du jour à nouveau flamboyant. Non, mais cette économie américaine semble inarrêtable. Le chiffre des ventes au détail supérieur aux attentes une nouvelle fois au mois de mai. On les attendait à plus 0,5, elles ressortent à plus 0,9, ces ventes au détail. C'est quand même assez impressionnant. Romain Daubry nous rejoint pour Bourse Direct. Bonjour Romain.
Bonjour Guillaume.
Comment vous sentez les forces en présence avant la fête ce soir?
Vous avez bien décrit la situation d'attente. Hein. Sur les marchés américains, on a quand même un Dow Jones qui a formé un nouveau plus haut historique. Sur le Nasdaq et le S&P, c'est un peu plus calme, un peu plus sage depuis quelques séances, même si on a bien rebondi. On a laissé des gaps aussi ouverts en début de semaine. On n'en est pas loin, donc attention à des petits mouvements de repli pour aller au moins combler ces gaps. On a un coup d'arrêt qui a été marqué depuis 15 jours, 3 semaines maintenant, sur les indices majeurs américains tech. En Europe, c'est un peu différent. On voit un Eurostox qui continue à former des nouveaux plus hauts récents. Le DAX est un peu à l'équilibre et le CAC 40 un peu plombé. On a du mal à avoir une grosse direction. Donc, on est un peu entre deux eaux, entre deux gaps d'ailleurs sur l'indice parisien. On peut dire qu'on est quand même très complaisant du côté des ratios put-call sur les indices européens. Attention à ce qu'une mauvaise nouvelle ne vienne pas décevoir les opérateurs. On pourrait avoir des mouvements un petit peu plus violents, mais c'est du mieux. On a passé des niveaux techniques depuis le début de la semaine et ça se confirme.
Quels sont les prochains à suivre du coup de niveau technique?
Alors, à Paris, il faut vraiment regarder les deux gaps entre lesquels on se trouve calé. En bas, le pied, c'est 8302 points. En haut, c'est 8506 points. On n'a toujours pas réussi sur l'indice parisien à aller combler le gap qu'on avait laissé baissier, qu'on avait laissé ouvert le 2 mars dernier. Donc 8302 en bas, 8506 en haut. Et le pivot, c'était la première cible qu'on avait donnée, c'est 8462. On est toujours un petit peu en dessous. C'est un peu mou pour l'indice parisien. Si on regarde du côté du Nasdaq, on a une zone de support qui est marquée par le gap laissé ouvert lundi, 30095 points. Le plafond de verre, c'est 30552, la grosse résistance. On s'articule entre ces deux niveaux-là. Si on veut jeter un œil du côté du S&P, les niveaux à surveiller, le premier niveau un petit peu important, c'est 7500 points. L'alerte, c'est 7455.
Bon, Romain, une petite valeur là du côté des États-Unis. SanDisk, qui gagne depuis août 2025 7600%. Ça va, on prend 2-3 profits, qu'est-ce qu'on fait?
Apparemment, il y avait un gros besoin de mémoire flash hein, depuis août 2025, donc un parcours qui semble un peu exubérant compte tenu du pourcentage. Alors, on était aux alentours de 22-23 et on a formé hier un plus haut sur le titre à 2167. Alors, on a quand même une structure de retournement baissière qui se met en place de court terme. C'est rien compte tenu du parcours récent, mais un titre qui donc sous le niveau de 2030 peut accélérer et aller chercher une zone de prix qui est située entre 1392 et 1520, donc peut-être un petit mouvement de consolidation à envisager sur ce titre qui a formé un très très gros parcours récemment.
SanDisk, merci beaucoup Romain, on vous retrouvera à la clôture tout à l'heure à 17h35. Un mot du pétrole quand même, le baril stable à $80, et alors la question c'est si le détroit d'Hormuz rouvre véritablement, est-ce qu'on va être comme ça d'un coup inondé de pétrole à l'échelle mondiale, est-ce que d'un coup plein de barils vont arriver? Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, s'est exprimé tout à l'heure là-dessus et il est très réservé. Il explique, Patrick Pouyanné, que nous avions, donc Total Energy, nous avions 11 pétroliers bloqués. On a réussi à en sortir 3 du Golfe via le détroit d'Hormuz et on va tous les sortir. Mais pour les ramener dans le Golfe ensuite, on va y regarder à deux fois. On va regarder si la paix est vraiment là. Voilà ce qu'il a dit, Patrick Pouyanné, qui ajoute qu'un retour à la normale d'ici 6 mois, 1 an est possible, mais pas avant, même en cas de réouverture du détroit d'Hormuz dès vendredi.
Patrick Pouyanné, il dit quelque chose de très juste, enfin, mon avis en tout cas, c'est que la fermeture du détroit d'Hormuz a créé un précédent. Et que maintenant, plus jamais, ce sera pareil. En fait, c'est aussi bête que ça. Le trafic risque d'être moindre, même avec toute la bonne volonté des autorités iraniennes. Et donc, vous devez ajouter une prime sur le pétrole. Et développer les axes alternatifs, tout simplement.
Et oui. Bon, on en reparlera tout à l'heure dans le club. Et puis, on parlera aussi de la Fed. Bien sûr, c'est ce soir. Première décision monétaire de l'ère Kevin Warsh. Seriez-vous surpris? C'est la question du jour sur nos réseaux sociaux X et LinkedIn. Vous pouvez vous abonner, nous suivre et participer chaque jour. Seriez-vous surpris ce soir que la Fed monte les taux, baisse les taux, deuxième possibilité, ou les maintiennent stables? Qu'est-ce qui vous rendrait le plus, Julien? Une hausse, une baisse ou une stabilité?
Une baisse comme une hausse, en réalité. Il n'y a pas de raison fondamentale pour aller vers une baisse des taux. C'est ce que réclame Donald Trump à corps et à cri, parce que la logique de la politique monétaire semble lui échapper quelque peu. Ou alors, en tout cas, politiquement, c'est toujours plus simple d'avoir des taux bas, n'est-ce pas? Mais il n'y a absolument aucune raison de baisser les taux. Même Christopher Waller, hein, qui est plutôt une colombe, reconnaît qu'il n'y a pas de raison. Donc, logiquement, moi, je serais très surpris d'une baisse des taux.
OK. Donc, une baisse de taux, ça vous surprendrait, mais une hausse de taux vous surprendrait autant. Pourtant, il y a de l'inflation.
Tout autant, mais c'est pas ce que le marché attend, donc ça risque de faire mal. La baisse me surprendrait davantage, si vraiment il faut trancher. Puis en plus, je pense que ça enverrait un signal ultra négatif sur l'indépendance de la Fed.
Oui, sur l'indépendance de la Fed, effectivement. Antoine, qu'est-ce qui vous surprendrait le plus ce soir de la part de la Fed?
Oui, la baisse. La baisse, ce serait le témoin du fait que Kevin Warsh craque complètement sous la pression politique. La décision n'aurait aucun sens. Aucun sens, parce qu'on baisse pas les taux face à une économie qui roule tambour battant, qui crée de l'emploi alors qu'on craignait qu'elle en détruise, alors que on a un dollar qui est quand même la valeur refuge du moment. Les faire grimper à la limite serait peut-être un tout petit peu moins surprenant, dans le sens où il y aurait quelques petits points de base à reprendre sur les dynamiques qui sont déjà enclenchées. Oui, ce serait vraiment une baisse qui serait de nature à complètement déstabiliser le marché et à faire craindre qu'on est sur une Fed sur laquelle le pouvoir politique a pris le pouvoir.
Alors, vous êtes tous les deux d'accord pour dire que le plus surprenant, ce serait une baisse de taux ce soir. Hier, Christian Bitteau nous disait non, le plus surprenant, ce serait un statu quo. Pourquoi ? Parce qu'il joue sa crédibilité. C'est la première réunion politique monétaire de l'ère Kevin Warsh. On a quand même une inflation assez incroyable. Les prix à la production en hausse au mois de mai de 6,5%. Et ça fait des années que les prix à la production comme les prix à la consommation sont au-dessus des objectifs de la Fed. Et il nous disait donc hier, Christian, là, pour sa première réunion, il faut que Kevin Warsh tente le coup et propose à son comité de politique monétaire une hausse de taux. Quitte à ce que ce soit pas 25 points de base, 15, allez, pourquoi pas 15, mais une hausse symbolique parce qu'on est toujours largement au-delà des objectifs de la Fed. Et la Fed doit un soir ancrer, installer, confirmer sa crédibilité, c'est l'enjeu d'une première réunion de politique monétaire pour un nouveau président de la Fed. Il devrait donc relever les taux, ne serait-ce que de 15 points de base. Voilà ce que nous disait hier Christian Bito. Ça, vous n'êtes pas du tout d'accord, Julien, avec ça ?
Je veux dire, il y a certains arguments très justes de la part de M. Bito, donc on ne va pas remettre en cause ce qu'il dit. Simplement, moi, je doute que M. Warsh veuille prendre le risque en fait, de décevoir Wall Street dès sa première réunion, en fait. Parce que, alors, peut-être que si on arrive à être sur 10 points de base, peut-être que ça passerait un petit peu. Mais la vérité, c'est que le marché, il sera déçu s'il y a une baisse comme une hausse, en fait, à mon humble avis.
On va regarder vos réponses à vous tous. Qu'est-ce qui vous surprendrait le plus, vous, ce soir ? Eh bien, vous êtes une majorité. Une majorité d'accord avec Christian Bito, là, pour le coup. Vous êtes une majorité à dire que ce qui vous surprendrait le plus, ce serait un maintien des taux. 44% d'entre vous seriez surpris par un statu quo. 44%.
Ah bah, du coup, c'est nous qui sommes pris à contre-pied, là.
Voilà. Ah, on verra. Ah. Est-ce qu'il surprendrait vraiment le marché s'il choisissait de relever un peu les taux ? On regardait tout à l'heure l'outil FedWatch, le marché anticipe à 55% un statu quo. À seulement 55%, hein, pas à 85%.
Ouais, ça, vous avez raison.
Alors, ce sera à suivre tout à l'heure, et puis ce qu'il dira aussi sur ses méthodes de communication, parce qu'il veut raréfier les conférences de presse, pas les rendre quasi automatiques, et peut-être même faire disparaître les fameux dot plots. Ça, ce sera un autre enjeu, Antoine. Bon,
dites donc, je sors complètement du sujet, je reviens sur SpaceX.
Ah mince,
ça va retourner à la hausse.
Mais non.
Ça pouvait pas attendre, on va en reparler.
Vas-y, non, c'est en toujours en baisse, je vous rassure. Oui. Ils viennent d'annoncer qu'ils ne donneraient pas leurs résultats et leurs comptes par les officines de diffusion de comptes habituels, mais sur X. Ça, ils feront des posts sur X pour donner leurs résultats. C'est pas super fort, ça.
Si, si.
J'adore.
Eh oui, c'est magnifique. Génial. Il faut rien. Bon, on rigole parce qu'en fait, on sait depuis hier, ça.
Même avant-hier, je crois.
Avant-hier. Je crois qu'on en parlait hier.
C'était Sabrina qui vous en avait parlé, Antoine, hier, notamment.
J'adore ce genre de scène.
Je sais pas, je viens de voir le truc.
Alors, ça a peut-être été officialisé, Antoine. Hein.
Officiellement dit. Il y a tout ce qui fuite et puis il y a ce qui est officialisé, effectivement.
Non, mais là, c'est officiel.
Là, voilà. Ben voilà. Effectivement. Et parfois, les journalistes sont super bien informés. On en parlait dès hier, c'est vrai, ça fuitait.
Parfois, ils sont complètement à la ramasse.
Parfois, la ramasse. Ouais, non, pas toujours. Et là, effectivement, SpaceX a officialisé. C'était important de le signaler.
Youpi.
On en reparlera dans un instant. Mais aujourd'hui, il y a une lourde déception sur les marchés européens. C'est BMW, il faut qu'on en parle quand même aussi. BMW perd 7% après un avertissement sur résultat qui laisse le marché pantois, Julien.
Je vais dire la même chose, pantois.
Pantois, non, vraiment.
On ne sait pas si Kevin Warsh décevra le marché ce soir, mais en tout cas pour BMW, c'est réussi. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, si vous voulez, ça arrive assez souvent d'ailleurs avec les boîtes allemandes, si vous voulez, même parfois pendant la séance, je ne sais pas si, notamment les vendredis. Ils font une communication ad hoc pour dire que les objectifs ne sont pas tenus. Dans le cas de BMW, matériel, c'est un anglicisme, c'est très important. Quelques chiffres, désolé, mais juste sur la marge opérationnelle automobile, ils prévoient une marge entre 1 et 3 contre 4 à 6 précédemment. Donc ils divisent par 2. On va faire un deuxième chiffre, ça suffira. La génération de trésorerie, ce qui reste peut-être parfois la métrique la plus regardée, ils tablent sur plus de 2,5 milliards d'euros, ils étaient à plus de 4,5 milliards. Et c'était là où était le consensus d'ailleurs, 4,5 milliards. Donc on est vraiment sous les attentes.
C'est un énorme profit warning. Comment BMW le justifie-t-il ?
Il y a deux facteurs essentiels. Le premier, et en fait c'est peut-être même le plus important, c'est la Chine. Ça fait plusieurs années en fait que BMW, et c'est pas les seuls en fait, abaissent leur prévision en raison de la Chine. Et il faut savoir que le marché chinois actuellement, c'est vraiment en perte de vitesse, mais alors à un point, je veux dire, la CPCIA, si je dis pas de bêtises, donc c'est l'équivalent de la CEA, c'est l'association des constructeurs chinois.
Vous pourriez dire avec l'accent chinois, mandarin.
Je l'ai pas. Mais ils ont annoncé qu'ils ont abaissé leur prévision de croissance pour 2026. Et quand je parle de croissance, en fait, je ne devrais pas dire ce mot. Ils attendent un marché en repli de plus de 14% cette année. Et en ce qui concerne BMW, ça fait 2 mois, d'après City, qu'ils sont à 30 000 unités par mois de vente, sachant que la ligne de flottaison qui leur permet de tirer la tête hors de l'eau, c'est 50 000 unités. Ça, c'est le premier facteur, parce qu'il y a une ultra concurrence sur le marché chinois. Il y a un marché mature. Le deuxième, c'est le Moyen-Orient. Ils le disent eux-mêmes, des coûts d'énergie plus élevés pour eux, qui pénalisent leur structure de coûts. Et à côté de ça, bah, la confiance du consommateur qui se dégrade, rien de bien sorcier, mais voilà, c'est deux raisons.
Mais alors du coup, on se demande à qui le tour là ? Est-ce qu'il faut redouter d'autres avertissements sur le secteur ?
Écoutez, oui et non. Oui pour les Allemands, parce que c'est Royal Bank of Canada qui écrit ça, qui vous dit que le problème de la Chine, ça ne concerne pas que BMW, il est plus macroéconomique, donc on peut penser que certains constructeurs automobiles vont aussi en pâtir et risquent aussi de baisser leurs prévisions. Eux, ici, de Mercedes et Volkswagen. Maintenant, vous allez me parler des valeurs françaises. Renault, les guillemets, c'était pour Stellantis, qui, eux, ne sont pas ou peu présents. Renault, pas, et Stellantis en Chine. Sauf qu'en mars, donc c'était il y a un petit moment maintenant, vous me direz, Morgan Stanley disait qu'en raison du conflit au Moyen-Orient, on risque d'avoir des abaissements d'objectifs de la part des constructeurs européens. À cause des retombées des répercussions négatives que BMW a d'ailleurs pointées.
Exactement. Ce titre BMW à Francfort perd 8% et le secteur automobile, Antoine nous en parlait tout à l'heure, est en repli également. Antoine.
Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi cette information là, publiée ce matin dans la presse économique anglo-saxonne, mais des indiscrétions apparemment du côté du conseil de direction de Volkswagen. Ça se passe excessivement mal et on a des administrateurs qui sont en train de dire qu'il y a peut-être un problème structurel sur le modèle de Volkswagen tel qu'il est en ce moment face aux réalités géopolitiques, mais aussi aux transformations de l'industrie où on a un constructeur qui court après les voitures à vendre et qui n'arrive pas, quoi.
Ouais. C'est dur pour Volkswagen.
Oui.
16h48, chaque jour, un expert nous rejoint et vient participer à ce conseil de famille. On est ensemble en direct et c'est Stéphane.
Mais qui voilà ?
Stéphane Van Nuffel, c'est lui.
Salut.
Président de SVH Conseil.
Ingefi Partners.
Ah oui, on répète.
N'oubliez pas. Directeur de la performance d'Ingefi Partners.
Voilà. À Bordeaux. On salue les Bordeaux. C'est très très chaud là, Bordeaux.
Ah, mon parfum. Bah, je suis aussi remarqué, mais vous avez vu, j'ai mis une petite nuit d'été.
Oui, oui, on est à suivre aussi à la télé. Parfois, ça vaut le coup. Pour se prémunir de tout accident en matière d'investissement boursier, il faut investir de façon progressive. Le fameux DCA, certains y croient, pas vous, vous vous dites bullshit. On entend souvent, Stéphane, en effet, qu'il faut investir par étapes, progressivement, pour essayer de se prémunir de tout accident en matière d'investissement. Pourquoi vous ne partagez pas cette idée ?
Je ne partage plus cette idée parce qu'en fait, elle est partagée par trop de monde. Et elle est de plus en plus partagée par des gens pour lesquels je ne veux pas porter de jugement personnel, mais sur lesquels j'ai une grosse méfiance. Et je parle en particulier de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur YouTube, etc., où je suis moi-même présent. Et malgré la loi du 9 juin 2023, où l'AMF et l'Autorité des marchés européens a censé cadrer les influenceurs financiers. En ce moment, c'est le fantasme absolu. C'est faites de l'investissement progressif. Prenez votre temps, créez des paliers, etc., etc. Et la façon dont c'est expliqué à un particulier qui n'aurait pas autour de lui soit une chaîne de médias financiers tout à fait pointu comme BFM Business ou qui n'aurait pas un conseiller en gestion de patrimoine pour lui expliquer comment ça se pratique et pourquoi ça se pratique, oui. Forcément, il pourrait une fois de plus aller dans le mur ou passer à côté d'opportunités.
D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est que l'investissement progressif, c'est sympa, mais ça monte très, très vite ses limites. Du coup, la préconisation, c'est quoi ? C'est tout mettre d'un coup, investir en bourse comme on joue au casino ? C'est quoi votre façon de voir les choses ?
Je suis obligé, au cas où les autorités nous écoutent, de rappeler que tout dépend de votre situation, de votre objectif, de vos moyens. Oui. Et de là où vous voulez aller, c'est votre profil qui va définir évidemment cela. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le temps qui est toujours, en tout cas en gestion de patrimoine, mais je pense en investissement financier, c'est le temps qui est le juge. Alors attention, je suis obligé de le dire parce que je suis très fan et moi j'ai toujours regardé beaucoup les grands investisseurs. Évidemment, je vais faire référence à Warren Buffett parce que c'est mon mentor. En tout cas, j'espère m'inspirer de lui de temps en temps.
Vous êtes son fils spirituel.
Ouais, alors bon, c'est pas évident physiquement, mais en tout cas, j'aimerais bien avoir ne serait-ce qu'un millième de ce qu'il a réussi à faire, ce serait une bonne chose. Non, mais pour être sérieux, lui disait un peu l'inverse. Même si on sait qu'il a renforcé des investissements au cours de la carrière de son fonds, il avait comme principe de bien comprendre un investissement, de bien creuser cet investissement et de se donner évidemment du temps. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, et ça, le gestionnaire de patrimoine va vous dire que nous, c'est notre dada, on se donne du temps, on est quand même sur une émission de bourse, et donc tout dépendra du momentum. Parce que si vous faites de l'investissement progressif, si vous prenez votre temps parce que vous voulez être prudent, et je peux comprendre ce raisonnement, et je ne le dénonce pas, vous allez rater des momentum qu'il ne faut pas rater. Exemple, alors vous en avez parlé tout à l'heure, donc je vais enfoncer une porte ouverte, un IPO un peu important aux États-Unis ou qui pourrait donner un ruissellement dans les prochains mois, là, typiquement, si vous êtes sur l'investissement progressif, vous ratez le coche.
Julien, il faut faire quoi sur cette entreprise dont on taira le nom, non, je plaisante. Tout le monde a compris qu'il s'agissait de SpaceX. D'ailleurs, vous en avez acheté, vous ?
Non, d'abord, parce que j'aurais pas pu en avoir, parce que la poche pour l'Europe était quand même extrêmement restreinte. Ensuite, enfin, évidemment, c'est un excellent exemple. Parce que là, pour le coup, on sait, en particulier quand il y a, je vais pas refaire l'histoire, une libération très faible, hein, du capital. Là, c'est 5% qui était flottant seulement, hein. Ça veut dire que là, il va y avoir beaucoup de monde qui le veulent. On fixe la cote. On sait très bien que ça va se jeter dessus comme un petit morceau de viande sur une meute de chiens. Donc, forcément, vous savez qu'à très court terme, ça peut être une super opportunité. Donc, évidemment, je reviens au propos. Si vous faites de l'investissement progressif et que vous vous donnez 6 mois pour rentrer, petit à petit, étape par étape, parce que je rappelle que on prend des poches temporelles, ouais, on se rate. Bon, maintenant, attention sur SpaceX pour faire un petit aparté. Il faut faire attention également parce que, ben, l'opportunité, elle peut avoir des limites. Là, on nous dit qu'il y a des lock-up qui vont se débloquer dans les prochains mois. Ça veut dire que le capital, petit à petit, des anciens investisseurs vont pouvoir vendre leur part parce qu'ils sont bloqués, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, il y aura de nouvelles opportunités. Je suis toujours très sceptique. Est-ce que ces opportunités vont amener suffisamment d'actions pour que les gens se jettent dessus encore plus, ou est-ce que une trop grosse liquidité disponible va entraîner le marché? CF, pour ceux qui ne nous regardent pas, ils voient pas que je fais une petite CF avec mes doigts.
À la baisse.
Facebook, Snapchat, Uber, et tout un tas d'autres trucs où c'était parti comme ça. Bon. Maintenant, vous investissez, vous vous dites, j'ai 10 ans pour voir ce que donne SpaceX. Jusque-là, Elon Musk et ses équipes nous ont prouvé qu'ils sont capables de faire 2-3 trucs pas mal. Et l'exemple de Facebook dont je parlais en 2012 a montré que les gens qui n'ont pas touché, qui ont investi, ont gagné de l'argent.
Oui, juste sur les fenêtres de lock-up, on peut détailler ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tous les courants sont plutôt ascendants sur SpaceX, mais il va y avoir des fenêtres de vente, effectivement, qui pourraient entraîner des vraies respirations, des corrections ou des plongeons, on verra. Ou pas, ouais. Alors, Julien.
Comme l'a dit Stéphane, moins de 5% du capital flotte actuellement. Sauf que vous avez 17 paliers de lock-up. Ça veut dire quoi, 17 paliers de lock-up? C'est-à-dire que vous avez 17 échéances où les actionnaires historiques pourront vendre. Alors, pas tous. Ils sont conditionnés, mais quand vous additionnez le tout, vous êtes sur des centaines, voire des milliards d'actions qui pourraient arriver. Alors ça, attention, la précaution, c'est que ça donne le droit aux actionnaires historiques de vendre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. C'est pour ça qu'en fait, il y a un doute là-dessus. Par ailleurs, ce matin, nous étions à un déjeuner avec la financière de l'échiquier qu'on salue. Ce que disaient leurs experts, c'est que SpaceX va être ajouté dans les fonds indiciels, et pas n'importe lesquels, un Nasdaq, MCWI, et qu'on peut penser que s'ils ont fait ça, c'est justement pour essayer d'espérer que les courants acheteurs puissent compenser les courants à la baisse.
C'est très intéressant parce que 17 lock-up, c'est compliqué à comprendre et à saisir les opportunités. C'est quand même raisonnable. Vraiment, Elon Musk a voulu très clairement mettre en place tout ce qu'il faut pour éviter justement qu'il y ait un trop-plein. Mais je dis juste, soyez quand même vigilants, pas dire de bêtises, je crois qu'il y avait 700 millions de dollars là qui étaient ouverts sur 13 ou 14 milliards. Ce sera 900. En juillet, ce sera 900. Juillet ou août, le premier lock-up potentiel sur les investisseurs historiques, c'est déjà 30% de plus qui a été échangé là. Bon, moi je pense que ça va quand même bien se passer parce qu'il y a tous les gens qui sont frustrés là, les Européens en particulier,
qui vont
vouloir se jeter dessus.
On a eu moins de 10% de l'IPO nous.
Voilà.
Et ces lock-up, ils commenceront à arriver en plein été.
Bon, alors cela dit, si on suit votre philosophie de départ, sur quel autre type de valeur on investit?
C'est-à-dire?
On peut investir.
Moi aujourd'hui, je vais vous dire, objectivement, d'abord, il faut avoir une stratégie dans le temps. C'est-à-dire, il faut intégrer le temps dans sa stratégie. On parle de diversification souvent sur ce plateau, et puis sur tous les plateaux patrimoniaux ou financiers. Et on parle de zones géographiques, de secteurs, etc. Pensez aussi à la notion de temps. Ça veut dire que dans votre portefeuille, que ce soit un portefeuille boursier ou assurance vie, vous mettez des échéances court terme, vous mettez des échéances moyen terme et des échéances long terme, et vous profitez des momentum court terme si vous avez envie de faire des coups, j'aime moyennement ces choses-là, et sinon on réfléchit à un plus long terme. En ce moment, ce qui marche bien, je donne une petite astuce, alors c'est un fonds, évidemment on est moins dans les valeurs, pardon, parce que je fais mon métier quand même, vous avez des partenaires aujourd'hui qui travaillent beaucoup sur de la rotation sectorielle mensuelle, par exemple aux États-Unis, ça veut dire qu'ils ont des outils qui vont tous les mois revoir l'allocation mécaniquement en isolant les 3 secteurs sur les 10 gros secteurs des activités économiques américaines qui ont le meilleur momentum potentiel. Et on regarde leur valorisation, l'évolution potentielle de la valorisation et évidemment leur coût par action. Et à chaque mois, finalement, la conviction est remise en place. Donc c'est une façon indirecte, et là je vois Guillaume qui sourit, de faire de l'investissement progressif, mais vous laissez faire ça à des professionnels, et au final
tous les chemins mènent à Rome.
Mais vous avez quand même des performances qui sont quasiment au-dessus de 10% sur les 5 dernières années, donc vous voyez, sans trop vous compliquer la vie, voilà d'autres façons d'en profiter.
Il nous reste Une minute trente à passer ensemble en famille, en conseil de famille. Vous voulez bien rester un peu, Stéphane ?
Mais avec grand plaisir.
Et vous tous qui nous suivez, vous faites partie de la famille BFM Bourse tous les jours sur les réseaux sociaux. On vous suit, on vous challenge, on traque vos meilleurs posts. Julien, la rédaction de BFM Bourse a repéré ce post de Boulébert 13 qu'on aime bien suivre et qui nous suit aussi de temps en temps. Il nous dit quoi, Boulébert 13 ? On reste sur SpaceX que lundi, incroyable, écoutez bien. Lundi, 73%, donc les trois quarts des actions achetées par les particuliers américains, les trois quarts étaient des actions SpaceX. C'est complètement dingue, Julien.
Ça s'appelle un consensus.
Oui.
Tout à fait.
Un rouleau compresseur.
Tout à fait. Alors, les données viennent a priori de Vanda Research, parce qu'il cite un post de Kobe Selector qui, même si ça, c'est-à-dire que la source est censée être fiable.
Oui.
Vanda Research, c'est cité par les plus grands. 73%, moi je ne suis pas ultra surpris par cela, pour la simple et bonne raison que c'est l'IPO, l'introduction en bourse, qui a été la plus grande publicité au monde de l'histoire. C'est une, je veux dire, tout le monde en parlait de ça. Je veux dire, j'ai vu un reportage sur M6 pas plus tard qu'hier, qui était d'ailleurs très bien fait, soyons confraternels. Et voilà, tout le monde aujourd'hui a entendu parler de SpaceX. Et qu'on veuille ou non, les particuliers, c'est difficile de ne pas avoir de comportement grégaire, en fait, a fortiori quand on ne monte pas dans le train, on le rate.
Et quand tous les influenceurs sur les réseaux sociaux, en plus, se mêlent de cette histoire et expliquent ce que devrait faire Elon Musk, évidemment. Au contraire, c'est le chic du chic, c'est de dire, et c'est le consensus en plus, qu'il ne faut surtout pas aller sur SpaceX, c'est trop valorisé. J'ai le sentiment que le discours dominant, le consensus, c'est plutôt de dire n'y allez surtout pas, que les influenceurs qui essaient de se racheter une crédibilité disent aussi n'y allez pas, ça fait chic, ça fait sérieux de dire de ne pas y aller. Quoi. Et pourtant, les particuliers, ils vont...
Bah, ils essayent en tout cas d'y aller, parce que tout le monde ne peut pas être servi, je le redis, mais il ne faut pas être frustré, il ne faut pas se précipiter. Je me méfie toujours quand même, il faut toujours se méfier quand même de l'ultra-consensus, si je peux me permettre.
Il y a quelques analystes qui ont commencé à suivre SpaceX. La plupart n'ont pas commencé simplement parce qu'ils évoluent dans des banques qui étaient partie prenante de l'opération. Donc ils sont encore restricted, c'est-à-dire ils ne peuvent pas donner d'opinion pendant encore quelques jours. Mais il y a quelques banques d'affaires qui ont commencé à suivre le titre, comme Oppenheimer et Evercore, Isaac.
Oui.
Ces gens sont à l'achat.
Oui, et exactement, ils restent à l'achat, effectivement. Oui. Bon, ben merci beaucoup, impressionnant quand même. Les trois quarts des actions achetées par les particuliers sur la journée de lundi aux États-Unis, les trois quarts, c'était le seul titre SpaceX. Julien Marion, bfmbourse.com. Merci Julien de nous avoir accompagnés. Article aussi à retrouver sur Médincelle, le titre Médincelle qui perd 17% après sa publication. L'article est en ligne. Merci à Stéphane Van Nuffel.
Merci.
Il y a écrit Love sur votre petit polo.
Et c'est une marque guadeloupéenne. Je fais un petit clin d'œil aux Antilles que j'apprécie particulièrement.
D'accord. Bah, écoutez, on salue nos
petits
guadeloupéens
également. C'est sympa en plus.
Non, mais c'est très très bien. C'est la première fois que Love apparaît comme ça dans BFM Bourse.
Est-ce que je ne suis qu'à Bourg.
Antoine.
Il est perplexe.
Non, il n'est pas perplexe, Antoine. D'accord. Il n'est qu'amour, il dit je ne suis qu'amour.
Ça irait moins bien avec des bretelles. Donc,
forcément. Ouais. Dans un instant, on entre dans la dernière demi-heure de cette séance. Avec Antoine, donc, on va entrer dans la dernière ligne droite, on va la vivre. On va reparler SpaceX, mais promis, pas que, parce qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est la Fed, la première réunion de politique monétaire de l'ère Kevin Warsh. C'est à suivre dans moins de deux minutes. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.